dimanche dernier, Joël, tu nous avais lu dans Matthieu au chapitre 2, versets 16 à 18, et donc moi je vais poursuivre au début du chapitre 3. Dimanche dernier, Matthieu 2, c'était la péripétie de la mort des bébés garçons à Bethléem, à la suite de la naissance du Christ, suite à ce roi Hérode qui n'hésitait pas à massacrer. Et cet événement a souvent été appelé le massacre des innocents. Alors, tu avais appelé ça, Joël, peut-être la face sombre de Noël. Et je vais poursuivre avec une autre petite face sombre aussi de Noël. À Noël, on peut se réjouir, chanter, louer, et parler de bonnes nouvelles, de lumière, mais il y avait quelques faces sombres associées à cette naissance. Et dans Matthieu au chapitre 3, je vais lire les 13 premiers versets, on voit les paroles de Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Et là, on va trouver une facette qui n'est pas très réjouissante non plus, liée à la préparation de la venue du Christ. Car il s'agit de voir le péché qui nous habite. Il s'agit de se repentir pour pouvoir accueillir dans son cœur la venue du Christ. Alors Jean-Baptiste proclame dans le désert, je lis dans la version français courant, Matthieu 3, en ce temps-là, paraît Jean le Baptiste, qui se met à proclamer, ou d'autres versions, a crié dans le désert de Judée. Alors, c'est une région qui est peu peuplée, plus ou moins stérile, plutôt à l'est de Jérusalem, en direction du Jourdain, de la mer Morte. Et verset 2, il proclame quoi ? Changer de vie ! Ou alors d'autres traductions, mais changer de comportement. Changez radicalement. Repentez-vous, convertissez-vous. Différentes traductions. Changez de vie, car, il y a des raisons, le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est là. Verset 3, Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. » Et là, c'est une citation, je reviendrai sans doute, du livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Verset 4, Jean avait un vêtement fait de poils ou de peau de chameau, et une ceinture de cuir autour de la taille. Et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain, venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Et Jean les baptisait dans le Jourdain. Et puis au verset 7, Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur a dit, espèce de vipère. Quelque part, vous êtes la descendance du vipère. Quelle parole crue. C'est nouveau. On entendait ça, on dirait, mais c'est des injures. Et Jean poursuit, mais qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? Oui, la colère de Dieu vient. Le royaume des cieux est proche, mais la colère de Dieu vient aussi. Elle est proche. Alors verset 8. Montrez par des actes que vous avez changé de vie. que Jean-Baptiste exhorte à avoir des actes dignes du changement radical, dignes de la repentance qu'il préconise, dignes d'une conversion réelle. Et verset 9, Jean-Baptiste le poursuit, mais ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même Abraham est notre père. Car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Bon, Jean-Baptiste et Jésus, cousins, nés à peu près au même moment. Mais Jean a dû préparer le chemin la venue de son cousin à ses bonheurs. Et puis Jésus, c'est un mystère quand même, fils de Dieu. Il est passé un peu inconnu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pendant ce temps, son cousin a lui préparé sa venue. Verset 12. Jean-Baptiste peut dire, il tient à sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Alors c'est un instrument sans doute semblable à une pelle ou une fourche pour secouer le blé et séparer le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Et puis ce verset 13, à ce moment-là, Jésus vient de la Galilée, au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Alors je vais arrêter la lecture de ce verset, mais ensuite c'est le baptême de Jésus par Jean. Les quatre évangiles sont d'accord pour faire commencer le ministère de Jésus par une prédication de Jean-Baptiste. Alors Matthieu montre que ce Jean est prophète, car il est vêtu d'un manteau de peau de chameau, on va dire, une ceinture de cuir. Le vêtement de Jean-Baptiste, décrit par Matthieu, rappelle, mais vraiment, le vêtement du prophète Élie. En 2 Rois, au chapitre 1, verset 8. Jean porte le même vêtement que ce prophète Élie. Et d'ailleurs, Matthieu rapporte que Jésus dit que Jean était Élie, même à deux reprises, hein, Matthieu 11, verset 14, Matthieu 17, verset 12 et 13. Oui, Jean, c'était la voix d'Élie. Ce rapprochement entre Jean-Baptiste et les prophètes permet de faire la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce prophète Jean fait le lien, c'est-à-dire la connexion, la jonction entre les deux testaments. Le texte nous dit une voix, la voix qui parle, une voix crie dans le désert, au verset 3. Et puis au verset 1, Jean proclame dans le désert. Il proclame quoi ? Convertissez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est proche. Alors Jean proclame, on va dire qu'il crie. Donc le texte insiste sur la parole, la voix. Sur le message de cette voix. Et c'est seulement ensuite que Matthieu, dans son texte, dira que Jean baptise effectivement des personnes dans le Jourdain. Mais première chose qu'il présente, c'est la voix, la parole qu'il crie, qu'il proclame. Et pour proclamer cette parole, paradoxalement, Jean a choisi le désert de Judée pour prêcher. Alors, ce sont des collines arides, pas mal de pierres, sans doute des petites herbes qui, sans doute, quand on se met à l'horizontale, près du sol, on voit que c'est vert, donc la nourriture pour des brebis. Hein. Mais des collines arides, et peut-être que le désert nous invite au recueillement, peut-être pour certains, en tout cas invite à la solitude pour accueillir une proximité de Jésus. Et c'est à quelques kilomètres seulement de Jérusalem, quelques kilomètres de Bethléem. Alors Jean ne s'est pas installé sur les places publiques de la ville, au grand carrefour, là où les gens passent forcément, mais il s'est enfoncé dans le désert. Donc tous ceux qui voulaient l'écouter, tous ceux qui voudront l'entendre, ils devront d'abord prendre la route et rompre avec peut-être une certaine facilité. C'est une décision d'aller dans ce désert pour l'écouter. Le désert dans la Bible, c'est souvent un lieu d'épreuve, mais un lieu où on retourne à Dieu. Un retour à l'essentiel, parce que dans un désert, il n'y a que l'essentiel qui compte. Un lieu de conversion peut-être. Alors les habitants de Jérusalem, ils sont assez proches, donc ils peuvent y aller. Mais il faut se lever pour y aller. Ils peuvent entendre la parole de Jean et qui les appelle au baptême et un changement radical. Alors le langage de Jean est assez authentique. Hein. Alors, j'aurais jamais cette audace de parler aux gens comme ça. Peut-être vous non plus, hein, je ne sais pas. Et donc Jean est très authentique et son langage, c'est l'authenticité, mais il témoigne aussi d'un effort. Et ça s'éloigne du langage de Noël. Noël, c'est... Voilà, on peut faire la fête, parce qu'effectivement, Jésus est venu apporter le salut. C'est la joie. Il y a même de la louange vers Dieu qui dans le ciel, qui dit gloire au Dieu très haut, mais dans les lieux très hauts. Mais il y a aussi, repends-toi, change radicalement. Ah, c'est peut-être une certaine façon de Noël aussi, ça. C'est pour ça que je profite de ton idée, Joël. C'est pas si réjouissant ça de se repentir et de voir le mal qui est en moi. Convertissez-vous, repentez-vous, changez radicalement. C'est un programme de vie spirituelle. C'est pas seulement un changement de mentalité, mais c'est vraiment tout un engagement, une démarche vers Dieu. Et mon être entier doit être partie prenante. Alors l'évangéliste Matthieu revient au message de Jean-Baptiste et spécialement sa sévérité envers les pharisiens et les sadducéens, la descendance des vipères, dit-il. Autrement dit, il leur dit, mais vous ne produisez que des œuvres de mort, quoi. Repentez-vous. Alors certes, ils viennent assez nombreux, on voit au verset 7. Donc Jean pourrait être content, mais non, là, il se met en colère. Hein. Il ne veut pas qu'on se fasse baptiser uniquement par imitation, par un effet de groupe, par snobisme. Il faut produire des fruits qui expriment notre conversion, dit-il. Il faut produire des actes conformes, dignes d'un vrai repentir. Dieu ne se contente pas de simples sentiments ni de pratiques purement extérieures. Il veut des actes concrets qui engagent mon être entier. Alors la foi, elle-même, doit se purifier de toute recherche de facilité. Un, il fallait aller au désert. Et en plus, ce qui est beaucoup plus difficile, dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, ne pas imaginer et ne pas dire, finalement, j'ai Abraham pour père. Et oui, c'est ce qu'ils disent. N'allez pas dire en vous-même, Jean leur dit, hein, n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ah oui, ça c'est assez facile de dire ça peut-être. Donc Jean-Baptiste a des paroles très sévères. Jean dénonce le fait de dire et de ne pas faire. Il nous dit de produire des gestes et de poser des actes qui reflètent une vraie repentance, une vraie conversion. Alors ne dites pas Abraham et votre père, que veut dire cette expression, cet alibi, qu'on retrouve d'ailleurs dans la parole des Juifs, avec Jésus en Jean 8, et Jésus va dénoncer cette fausse excuse en Jean 8. Alors je vais lire ce texte de Jean 8, en français courant aussi. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ah, à ma parole, et Jean parle, crie. Et là, Jésus dit, mais si vous êtes fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, les Juifs répondent, mais nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ? Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Puis au verset 37 de Jean 8, « Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. » Mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'accueillez pas ma parole. Moi, je parle. Et il parle de ce... Alors, Jean pouvait parler, crier, proclamer. Mais là, c'est la parole même qui vient à Jésus. Lui, que dire, je parle de ce que j'ai vu auprès du Père. Vous aussi faites donc ce que vous avez entendu auprès du Père. Et au verset 39, ils répliquèrent, « Notre Père, mais c'est Abraham !» Puisque vous êtes les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, « Mais faites ce que faisait Abraham !» Quand nous pensons que nous sommes de bons chrétiens, que nous sommes ici, vous êtes d'accord, même si on est peu nombreux aujourd'hui, nous sommes dans la bonne église. Et vous avez bien fait de venir, hein, nos visiteurs, parce que nous sommes dans la bonne église, exemplaire. Donc, bienvenue chez nous. Mais finalement, si on dit ça, on n'a pas besoin de repentance. Et Jean pourrait nous sermonner. Peut-être que nous ne le disons pas, mais pensons-nous quelques secondes que nous avons pour Père Abraham, Jésus. Et à ce moment-là, on ressemble à ces personnes que Jean-Baptiste condamne, mais fortement. Jean-Baptiste dénonce cela, et d'ailleurs, le Seigneur sera très très sévère, beaucoup plus sévère que Jean, avec les religieux, qu'avec les pécheurs et les personnes de mauvaise vie. Avec les pécheurs, les gens faibles, les déshérités, Jésus apporte la grâce, la miséricorde. Un religieux qui dans son cœur fait semblant mais refuse Christ, alors Jésus est très sévère. Et Jean, ben, il a été très sévère aussi. Jean-Baptiste. Alors nous sommes interpellés par Jean. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous sommes menacés par la routine. Et parfois, on revient à Christ, mais peut-être nos retours vers Dieu peuvent rester un engouement, des engouements passagers. Nous risquons de nous sécuriser par des gestes religieux, par des idées qu'on défend, sans se soucier suffisamment de porter du fruit qui correspondrait par une vraie conversion du cœur, une vraie conversion de l'intelligence. En revenant au texte, Nous voyons que Matthieu, au verset 3, fait une citation donc de ce livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 3. Je vais le lire, hein, c'est la voix d'un homme qui crie dans les airs. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ce texte dans le livre d'Ésaïe, dans une partie du livre d'Ésaïe qui s'adresse principalement aux Juifs au temps de l'exil. Et l'exil dans l'Ancien Testament, pour le peuple, ça a été une obligation de réfléchir sur leur religion, religiosité. Ça a été une reconfiguration religieuse complète, quoi. Ils étaient très loin, hors du temple. Ça a été un temps et un lieu où le peuple a dû apprendre une nouvelle fidélité, une nouvelle relation à Dieu. Alors cette référence à l'exil que nous trouvons donc dans cet évangile selon Matthieu et nous dit, surtout donc dans la parole de Jean-Baptiste qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous dit que ce qui va suivre, ce que Jean-Baptiste annonce, préfigure une nouvelle compréhension de Dieu. Une nouvelle proximité. Et d'ailleurs, le texte nous dit, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux, alors c'est une expression spécifique à l'évangéliste Matthieu, on va plutôt dans notre évangile, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux peut évoquer, puisque c'est dans les cieux, hein, la souveraineté de Dieu sur la création, la souveraineté de Dieu sur l'être humain, sur tous les peuples. Alors ce qui est important, peut-être dans ce que dit Jean-Baptiste, le royaume des cieux est là, et il est proche, c'est que la souveraineté de Dieu, l'immensité de Dieu, est là, dans ce bébé, dans cet homme qui vient, qui grandit, et qui va prendre son service après lui. L'immensité de Dieu est maintenant accessible à l'homme. L'immensité de Dieu est là, parmi l'être humain. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu s'est fait proche. Et on pourrait dire que c'est la révolution de l'Évangile. Jean dit, convertissez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Mais Jésus dira la même chose dans ce même évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 17. Jésus emploie les mêmes mots quand il commence son ministère. Alors Jean-Baptiste et Jésus-Christ disent la même chose. Peut-être que la raison qui motive cet appel au changement de comportement est différente. Chez Jean-Baptiste, c'est plutôt peut-être le jugement qui est à la porte. Donc, il y a urgence. Jésus dit aussi, changez de comportement car le royaume des cieux est proche. Peut-être la motivation est différente. C'est la grâce qui motive Jésus à nous dire, le royaume des cieux est proche. Entre dans ce royaume. Oui, l'évangéliste Jean nous dit dans son chapitre 1 que la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Jésus apporte la grâce. Et donc, quelle motivation pour Jésus de dire, mais oui, le royaume des cieux s'est approché. Alors, change de comportement. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Ce n'est que par la grâce divine apportée par le Christ qu'on peut vraiment changer dans son cœur. C'est la grâce, hein, je crois que c'est l'épître romain que Dieu nous dit que la bonté de Dieu, donc la grâce, nous pousse à la repentance. C'est quand même notre cœur est dur, mais on peut, un sujet, un motif de reconnaissance envers Dieu, c'est que dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu travaille dans mon cœur pour m'amener à cette repentance. Mais qu'est-ce qu'il est grand, Dieu ? Qui travaille pour m'amener à cette repentance. Au verset 2 de Matthieu 3, donc, le mot changement radical ou le mot conversion ou repentez-vous, c'est le mot métanoïa en grec qui rencontre, paraît-il, d'un mot en hébreu qui signifie aussi retour. Changer, c'est aussi retourner vers Dieu. C'est un changement total de la pensée mais de l'action qui permet de se laisser transformer par Dieu. Qui ne consiste pas uniquement à revenir dans le droit chemin, mais qui entraîne un changement intérieur profond qui se manifeste par un changement de comportement qui va engager mon avenir. Nous avons dimanches précédents, plusieurs fois, rappelé qu'à Noël, on se souvient de la naissance de Jésus-Christ, une lumière pour les nations qui s'est mise à briller, qui s'est levée. Et donc, on rappelle l'irruption de la lumière dans les ténèbres. Et donc, dans cette période, voilà, Noël est passé, mais c'est toujours, on est toujours dans cette période, on est tous invités à affronter les ténèbres du monde, les ténèbres de nos propres vies, et à laisser la lumière du Christ éclairer chaque zone d'ombre. Alors la lumière du monde, dans sa bienveillance, demande que toute chose cachée soit dévoilée. Et dans la lumière, peut-être que mon cœur dévoilé ne sera pas beau. Et Dieu me conduit à la repentance. Nous ne pouvons pas accueillir la lumière du monde tout en fermant les yeux sur ce que je suis. Avant la joie de Noël, on va dire, Jean-Baptiste, avec son message donc, dans cette période de l'Avent, Jean-Baptiste nous fait entrer dans un temps de confession. C'est pas très rigolo. Mais en fait, la période de Noël, c'est aussi ça. Un temps de confession individuelle, peut-être aussi communautaire. Alors on dénonce les injustices, la misère, le péché du monde. Et peut-être le péché dans ma propre vie. J'ai aussi besoin d'être réparé. On peut peut-être chacun dire, j'ai mes idoles. Mes addictions, mes bassesses, mes préjugés, mes propres mensonges. En 2025, j'ai sans doute blessé beaucoup de personnes. Et j'ai été blessé moi-même. Je traîne de sombres souvenirs, peut-être que je garde pour une cicatrice. Alors Jean-Baptiste, pour préparer le chemin de Christ dans mon cœur, crie, je dois l'entendre, repens-toi, change radicalement. La repentance, oui, elle peut exister, elle peut naître, mais de l'espoir que notre péché, bien réel, n'est pas l'ultime réalité. Parce que la croix a été accomplie. Le péché n'a pas le dernier mot, parce que Jésus a dit, c'est accompli. Les prophètes, comme Jean le Baptiste, font œuvre de prédiction, de révélation, c'est-à-dire qu'ils annoncent la venue de Christ, mais aussi révèlent l'état de notre cœur. Alors ils prêchent la repentance, mais ils préparent aussi le chemin de notre salut parce qu'ils annoncent les plans et les projets de Dieu, les promesses de Dieu. Alors le prophète Ésaïe qui est donc nous retrouvons cité dans cet évangile de Matthieu et aussi Jean-Baptiste, tous les deux, ils devaient annoncer quoi? Le jugement mais aussi le salut à venir. Ils devaient quelque part tirer la sonnette d'alarme, mais apporter aussi une consolation. Alors une sonnette d'alarme, c'est toujours c'est très stressant, mais il y a donc la consolation. Et d'ailleurs, Isaïe 40 commence comme cela, « Consolez, consolez mon peuple ». Premier verset de ce chapitre 40 d'Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Alors, il y a plusieurs consolations qu'on peut se trouver dans le début de ce chapitre 40 d'Ésaïe. Comme la parole de Dieu qui se fait entendre. Dans ce premier verset d'Ésaïe, il est parlé aussi du pardon. Il est parlé de la justice. Il est parlé de la venue de Dieu. Et c'est ce que nous apporte la naissance de Christ et que nous rappelons spécialement à Noël. Parce que Dieu est venu parmi les hommes. Et puis, lui, ça a été la parole incarnée. Donc, il y a la parole de consolation. Il y a la présence de divine. Et en Jésus, il y a tout cela. Et il est venu pour annoncer quoi ? Apportez-le. Pas pour juger le monde, dit l'évangéliste, mais c'est pour sauver. Oui, il évoquait le pardon. La justice. En Jésus, nous avons cela. Et on se rappelle à Noël de toutes ces consolations. J'aborderai un dernier point. C'est que peut-être, nous aussi, même si on n'est pas dans un désert en région parisienne, on peut crier, on peut proclamer, comme les prophètes, comme Jean-Baptiste, en disant, mais repentez-vous, le royaume des cieux est proche, il est là. Nous aussi, peut-être qu'on est à Dieu en vue que l'on prépare la venue de Christ dans le cœur de quelqu'un qui vient, qui me connaît. Et on peut peut-être préparer la venue de Christ dans le cœur d'une personne par notre message, par la parole, mais par notre comportement. Parce que Jean-Baptiste criait, il proclamait, mais il avait un comportement qui était étrange aussi quelque part, au niveau de son habit, au niveau de sa nourriture. Il montrait qu'il était dans l'esprit des paroles qu'il annonçait. Alors son comportement aussi disait parler. Et peut-être à son image. On peut aussi préparer la venue de Christ dans quelqu'un. Si on peut le faire, mais quelle récompense on aura dans le ciel. Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 20, que je vais lire dans la version Parole de vie. Tout cela vient de Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé. Ah, il nous a demandé d'annoncer. Ah. Donc nous aussi, on a annoncé, à proclamer, à crier. Il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes et des êtres humains. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Donc on a bien ce ministère. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole, dit Paul. En réalité, Paul dit, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force, dit Paul. Jean-Baptiste est crié, et Paul aussi, et finalement, on a à faire pareil. Alors, je ne vais pas dire, dès en sortant d'ici de ce bâtiment, un premier venu que je vais croiser dans la rue, « Race des vipères que fais-tu là ?» Non. Mais, quelque part, Dieu nous demande d'annoncer, et c'est quand même très clair, mais que c'est beau d'annoncer une réconciliation. La réconciliation avec Dieu est possible parce que Jésus est venu. On s'en souvient à Noël. 2 Corinthiens 5, verset 20, c'est de la part du Christ que nous prenons la parole pour dire « Soyez réconciliés avec Dieu ». Donc ça, on peut le dire, « Soyez réconciliés avec Dieu ». On peut être une voix de la part de Dieu dans ce monde. Une voix, donc V-O-I-X. Hein, quand on connaît bien une personne intimement, on connaît sa voix. Alors certaines personnes ont des voix très caractéristiques, donc on s'en souvient plus. Et quand la voix est bien connue, on peut reconnaître la voix, quoi qu'elle dise. Et la voix nous donne accès à la personne elle-même, même si on ne la voit pas. D'ailleurs, quand souvent, nous, dans notre maison, quand quelqu'un rentre, ou moi, quand je dis, je vous la porte, et que je sais qu'Isabelle était en haut, ou Marie-Pauline, je dis, c'est moi, quoi. Même si on ne se voit pas, mais par la parole que je dis, Isabelle va savoir que c'est moi. Donc la parole donne accès à la personne. Hein, ça pouvait être la voix. Qu'il y ait une personne de mon entourage qui accède à Christ, porteur de la voix. Soyons la voix de Dieu qui précède et qui annonce l'entrée de Jésus dans la vie de quelqu'un. Alors, j'ai évoqué que cet évangéliste, ce Jean-Baptiste était très frugal, hein. Il était très sobre quant à sa nourriture, bon, on ne va pas faire de même, surtout à la période de Noël, mais il montrait qu'il vivait dans l'esprit de ce qu'il allait prêcher. C'est peut-être une leçon importante pour que notre voix soit entendue et entendable peut-être. Je m'arrête, mais je propose simplement de prier. Seigneur, toi qui as envoyé tes messagers pour prêcher le repentir, pour préparer le chemin de notre salut, fais-nous la grâce de pouvoir, de la même façon, préparer le chemin devant toi, en tournant les cœurs de ceux qui nous entourent vers toi. Aide-nous pour annoncer en 2026 cette parole de réconciliation qui vient de toi. Amen.
Amen. Merci beaucoup.